Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es. Une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Sicurel. Mark Eisenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Alliance israélite universelle et c'est un plaisir de vous accueillir dans « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es », une émission de l'Alliance israélite universelle et qui est d'ailleurs dans son ADN fortement marquée par les valeurs portées par l'Alliance, puisque d'une part elle fait le pari, je le rappelle souvent à l'antenne, que l'éducation et la culture ont un rôle déterminant dans les destinées humaines et je dirais que c'est aussi une émission qui elle-même est éducative. En tout cas, j'espère, puisqu'elle est une forme d'université sur les ondes, chaque dimanche et même chaque matin. Une petite pensée qui accompagne les auditeurs, un peu de spiritualité dans ce monde qui en manque parfois.
Nous allons essayer de développer cette idée dans les quelques minutes qui nous sont imparties.
Alors, Mark Eisenberg, sans plus attendre, attaquons-nous aux citations que vous nous proposez cette semaine, avec la première qui est extraite du Talmud et que je vous laisse relire.
Un mamzer, un enfant adultérin, s'il est chacham, sage et cultivé, est plus important et plus respectable qu'un Kohen Gadol Amaharet, c'est-à-dire qu'un grand prêtre ignorant. Cette Beraïta, ce texte du Talmud, explicite l'ordre de préséance dans le peuple juif. D'abord le Kohen, le prêtre, ensuite le Lévi, ensuite Israël, le reste du peuple. Tout en bas de l'échelle, le mamzer, l'enfant adultérin. Tout en haut, le premier des prêtres, le Kohen Gadol. Et pourtant, ce texte nous dit que si le mamzer, l'enfant adultérin, est instruit, il passe devant le Kohen Gadol qui serait ignorant. C'est vous dire donc l'importance de l'éducation, de l'enseignement dans le judaïsme. Et donc, il est capital, comme le fait l'Alliance, de s'occuper des écoles de nos enfants. Cette mission pédagogique est la plus importante dans la communauté. Nous souffrons trop de l'ignorance des règles du judaïsme et de la Torah. Et beaucoup de mauvaises interprétations viennent de cette ignorance, parfois responsable d'un certain obscurantisme. Je vous donne un exemple. Il est courant d'appeler le non-juif « goy ». Et rarement, mais même si ça existe peu de fois, c'est trop, ce mot « goy » peut avoir chez certains des élèves un certain sens péjoratif. Or, en fait, nous récitons chaque année dans l'Agada de Pessah un texte de la Torah qui dit que Jacob a séjourné en Égypte avec une famille peu nombreuse qui est devenue là-bas « goy gadol », une nation grande, puissante et nombreuse, « goy ». Autrement dit, le peuple juif est appelé « goy ». Si tout le monde apprenait cela, nous n'aurions pas la possibilité d'avoir, pour certains, un certain regard de condescendant sur les goyims. Aujourd'hui, on peut avoir deux attitudes dans l'époque troublée qui est la nôtre. Ou bien on se recroqueville à l'intérieur de la communauté, on s'occupe que de nous et tous les autres sont peu ou prou nos ennemis. Ou bien se souvenir que goy ne veut pas dire non-juif, mais peuple, que nous devons continuer à transmettre les valeurs universelles de la Torah aux autres peuples. Nous devons nous souvenir, par exemple, que la sidra la plus importante de la Torah, la section hebdomadaire que nous lisons chaque Shabbat à la synagogue, c'est celle qui parle des 10 commandements, porte le nom de Yitro. Et Yitro était le beau-père de Moïse, mais était un non-juif, grand prêtre de Midian, pour nous apprendre que nous devons travailler pour le tikkun olam, la réparation et l'amélioration du monde avec tous les peuples. Tel est le message des écoles de l'Alliance. On notera d'ailleurs dans ce texte que les rabbins expliquent qu'en Égypte, les Hébreux se sont distingués en conservant leurs traditions et leurs coutumes, ce qui était remarquable dans l'environnement égyptien, mais également, une des raisons de survie du peuple Israël, ça a été leur unité. Les Hébreux avaient fait serment de s'entraider. Que faire aujourd'hui pour promouvoir cette indispensable unité dans la communauté? À mon sens, il faut enseigner aux enfants la tolérance, le respect de l'autre. Et il faut donc connaître l'autre. Il faut que les écoles soient ouvertes et non uniformes. remplis d'enfants différents, religieux, traditionnalistes ou peu pratiquants, mais qui tous, à la fin de leur scolarité, doivent avoir acquis des connaissances fondamentales du judaïsme et la fierté et l'amour pour le peuple juif et Israël, tout en étant d'excellents citoyens concernés par le monde. Tel est l'idéal des écoles de l'Alliance qui aujourd'hui ont besoin de votre soutien pour fonctionner, d'aider pour des bourses d'élèves. Vous savez que la situation économiquement des parents est difficile. Nous avons besoin de votre soutien pour faire fonctionner ces écoles.
Et j'ajouterais que dans l'esprit de la charte du réseau scolaire de l'Alliance, hein, qui maintenant est vraiment l'horizon des écoles de l'Alliance, il n'y a pas seulement un idéal, mais il y a aussi énormément d'actions pédagogiques qui sont menées et qui profitent d'ailleurs au-delà des écoles de l'Alliance, au réseau des écoles juives, pour apporter justement des connaissances plus solides, plus précises, un programme encore plus structuré et surtout l'acquisition de l'hébreu comme langue, qui est à la fois évidemment une manière d'avoir un lien avec Israël, mais aussi un accès direct au texte de la tradition.
C'est très important de connaître l'hébreu, de comprendre les textes de la tradition et les textes qu'on peut lire à la synagogue. Cela change tout le rapport avec le judaïsme et nous avons un programme très ambitieux pour que dans les 5 prochaines années, les cours de matière juive se fassent ivrite by ivrite en hébreu dans nos écoles.
Voilà, et tout cela nécessite aussi des investissements importants pour profiter aux enfants des écoles de l'Alliance. Et je dirais au-delà, puisqu'on essaye aussi d'être une force de proposition pour les écoles de France qui sont également s'inscrivent dans cette même analyse. Alors, deuxième citation, une citation d'une grande figure qui a marqué aussi l'histoire de l'Alliance, Emmanuel Lévinas, alors grand philosophe français, bien entendu, mais qui, les auditeurs ne le savent peut-être pas, a aussi été pendant plus de 30 ans directeur d'une école de l'Alliance et du centre de formation des maîtres.
Même plus de 40 ans. Donc, Emmanuel Lévinas a dit que pour que les valeurs permanentes du judaïsme puissent nourrir les âmes, il faut qu'à nouveau elles nourrissent les cerveaux. Autrement dit, on doit à la fois toucher l'émotion et toucher l'intelligence, ce qu'on récite par exemple dans le Shema. L'Alliance a un discours original, mais à mon sens indispensable dans la communauté. 2/3 des écoles sont Chabad Lubavitch, ou en tout cas orthodoxes. Je respecte totalement leurs idées, ils font un travail d'enseignement parfois remarquable. Mais l'Alliance défend une vision plus ouverte du monde. Par exemple, la question de la femme juive dans la communauté, question au cœur de débats et de scandales actuels. Nous pensons qu'il n'est pas possible de traiter à la synagogue ou dans les instances communautaires les femmes comme des citoyens de seconde zone, incultes, avec des droits inférieurs aux hommes. Alors qu'en 2014, ces femmes ont des cursus d'études avancés, magnifiques, soutiennent des thèses, sont souvent parmi les premières dans tous les concours, et occupent des fonctions professionnelles de première importance. Comment traiter ces responsables de très haut niveau dans la communauté pratiquement comme des enfants? Pour lutter contre cette discrimination, il faut que les cours dans les écoles soient mixtes, que les programmes d'études soient les mêmes, qu'on encourage les filles à s'inscrire dans des filières scientifiques. Nous avons d'ailleurs un programme en Israël dédié à ce thème pour pousser les filles à faire des études scientifiques et cela marche très bien. Tel est le programme de l'Alliance. C'est un programme d'ailleurs qui est conforme à la Bible, quand on voit le rôle essentiel de certaines femmes dans la Bible ou dans Israël récent, quand Golda Meir était Premier ministre. Nous nous opposons également à la mechitsa, la séparation entre hommes et femmes, en dehors des offices religieux à la synagogue. À l'office religieux, on peut comprendre, mais en dehors de l'office, dans des manifestations culturelles, des bar mitzvah, des bat mitzvah, nous nous opposons à cette séparation artificielle qui, d'après nous, est contraire à l'essence du judaïsme. Je pourrais dire que je suis convaincu, pour parodier Jean Ferrat, que la femme est l'avenir du judaïsme.
Et j'ajouterais d'ailleurs que le fait de prôner une mixité à l'école, c'est aussi une manière d'éduquer les deux sexes à se respecter mutuellement. Parce que sinon, on laisse ça dans un coin aveugle et on ne sait pas très bien ce que ça deviendra.
Pour se respecter, il faut se connaître.
Troisième citation, Mark Eisenberg. Il s'agit d'une citation de David Ben-Gourion.
Israël doit s'inspirer de la Bible, livre humaniste et universel. beaucoup d'auteurs ont écrit des textes magnifiques sur le caractère universel et humaniste de la Bible, mais il m'a semblé intéressant de vous rappeler que Ben Gurion s'est beaucoup exprimé sur ce thème. Il a rappelé que le commandement le plus répété dans la Bible était le respect de l'étranger, parce que nous avons été étrangers en Égypte. Et David Ben-Gurion rappelait aussi que l'idéal de l'État d'Israël devait être la paix, comme il l'était celui de la Bible, ce qui était très original. Les prophètes envisagent le jour où le loup paîtra avec l'agneau. À l'époque, le plus grand, peut-être, des philosophes grecs, Platon, voulait la paix, mais voulait la paix entre Socrate et Athènes, pour que la Grèce puisse faire la guerre au monde entier pour imposer sa civilisation. En revanche, des prophètes comme Isaïe ou Michée n'ont cessé de prophétiser le jour où l'homme ne prendra plus l'arme contre son voisin et aucune nation ne fera la guerre l'une à l'autre. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, parler de David Ben-Gurion, évidemment, nous permet de faire une transition avec Israël, puisque l'Alliance a une vieille histoire avec Israël. Notamment, elle a créé dès 1870, avec Charles Netter, le premier lycée agricole de Mikvé Israël. Et ce fut un événement considérable, à tel point que Ben-Gurion, dans sa dernière déclaration, presque son testament, a déclaré que la véritable création de l'État d'Israël ne remontait pas à 1948, mais à 1870, la création de Mikvé.
Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter ce passage.
Cette école fut fondée par des Juifs français. La chose la plus remarquable, c'est que les Juifs français furent les premiers à exprimer le besoin de reconstruire l'État d'Israël et à dire qu'on ne pouvait pas reconstruire l'État d'Israël sans que les Juifs viennent travailler la terre. Alors ils ont envoyé l'un d'eux, un homme qui était né au temps de la Révolution française. Il fut membre du cabinet, deux fois membre de la Chambre. Il s'appelait Crémieux. Sa réflexion fut longue et il arriva à la conclusion « Nous devons ramener les Juifs à la terre. Ils doivent apprendre l'agriculture. » Alors, il envoya un de ses amis, Nettès, à Jérusalem. Il y avait alors 16 000 Juifs en Palestine. Il y eut une rencontre avec eux. Il leur expliqua pourquoi il était nécessaire qu'ils travaillent la terre. Et alors, dit-il, nous reconstruirons le pays. Les Juifs s'écrièrent non. Nous devons attendre l'arrivée du Messie. Vous savez ce que ça veut dire, Messie. Pourtant, une minorité accepta d'aller travailler la terre si une possibilité leur en était donnée. Alors le sultan leur accorda quelques hectares près de Jaffa afin d'y construire une école agricole. Mais il leur accorda seulement pour 99 ans et cette concession s'est terminée il y a 2 ans. Et ce fut le véritable début de l'État d'Israël, non pas en 1948, mais 1870.
Voilà, c'était David Ben-Gurion dans son dernier entretien qui parlait donc de l'école de Mikvé Israël créée par l'Alliance israélite universelle en 1870.
Et qui existe aujourd'hui toujours, puisque dans Mikvé Israël, il y a aujourd'hui 3 écoles qui sont bien représentants de la diversité de la communauté de l'État d'Israël et de l'Alliance. Une école religieuse, une école non religieuse et un lycée franco-israélien de l'Alliance. L'Alliance en Israël dirige également un réseau d'écoles qui compte aujourd'hui plus de 15 000 élèves, souvent dans des zones très défavorisées au nord et au sud du pays, c'est-à-dire à la fois une action pédagogique, mais également une action sociale avec des résultats remarquables. Et toujours cette réflexion de la liaison, nous essayons de faire la liaison entre l'éducation qui est donnée en Israël et en France pour unifier les programmes, l'hébreu au centre de nos réflexions en France, dans le monde, Parce que l'Alliance, ça n'est pas seulement en Israël et en France, c'est également au Maroc, c'est aussi au Canada, c'est en Suisse, c'est un partenariat...
Et en Europe
avec, en Europe, un partenariat avec de très nombreuses écoles. Et nous essayons de retenir le meilleur de la pédagogie de chacune de ces écoles.
On parlait de Mikvé Israël tout à l'heure. Ça me permet de faire un lien avec votre quatrième citation qui est sur l'écologie, puisque Mikvé Israël accueillera aussi bientôt un centre de recherche très pointu sur les questions liées à l'écologie.
Oui, puisque c'est l'histoire, l'ADN de Mikvé Israël, puisque Mikvé Israël, comme on l'a dit, était un lycée agricole et le premier endroit en Israël où on a cultivé la vigne, par exemple, avant même les implantations de la famille de Rothschild. Alors, cette citation, la Bible est le premier livre révolutionnairement écologique, Simon Fermont, dirigeant communautaire français. Pourquoi la Bible est-elle écolo ? En quoi elle prône le développement durable ? Eh bien, il existe un certain nombre de lois de la Torah qui le démontrent aisément. Par exemple, la loi sur la Shemitah, la loi sur la Jachère. Les terres agricoles doivent être cultivées pendant 6 ans, mais la 7e année, laissées en Jachère pour que la terre se repose et se régénère. Ou bien la loi de Péa, il donne l'obligation de laisser un bout de son champ inexploité et utilisable pour les pauvres pour qu'ils en tirent source de nourriture. Autre exemple, il est interdit de cultiver une terre avec 2 animaux différents, comme un âne et un bœuf tirant ensemble la charrue, en raison du déséquilibre que cela provoque et du non-respect d'un des 2 animaux. C'est de là d'ailleurs que nous tirons le célèbre proverbe « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ». La Torah a également fixé la règle de kilaïm, c'est-à-dire l'interdiction de planter dans un même champ des graines hétérogènes, comme le blé et l'orge, ou les fèves et les lentilles. Cela rappelle des débats très actuels sur les OGM aujourd'hui. De nombreuses autres règles montrent le respect de l'environnement, de la planète. Par exemple, la règle du baltachrit, il ne faut pas gâcher, jeter de la nourriture, mais il faut consacrer ses restes aux pauvres. Il s'agit d'un aspect trop méconnu de la Bible qui mériterait de longs développements. Une seule question, est-ce qu'on enseigne cette matière de manière correcte dans les écoles juives ? Pas sûr. À l'Alliance, on essaye modestement quand on célèbre la fête de Tu Bishvat, par exemple, et nous travaillons sur les programmes. Nous travaillons avec d'autres écoles juives pour améliorer les programmes et pour embrasser toute la culture qui est contenue dans la Bible et qui est beaucoup plus large que certains ne croient. Il faut améliorer en permanence l'enseignement, il faut améliorer le statut des professeurs, attirer les meilleurs, améliorer leurs conditions de travail, leur salaire, cela nécessite des moyens. C'est pour ça que nous avons besoin du soutien de chacun pour nous aider, pour améliorer l'enseignement de nos enfants.
Oui, et j'ajouterais d'ailleurs, pour ce qui concerne l'écologie, on peut faire aussi un lien avec tout le débat qu'il y a eu autour de la circoncision. On n'a peut-être pas assez dit combien les lois de la circoncision sont guidées par le souci du respect de la bête.
Absolument, on voit dans la Torah qu'on respecte l'animal, qu'on ne veut pas sa souffrance, et dans les règles de la Shrita, et surtout à l'époque, c'était même une révolution de s'intéresser et d'essayer de limiter au maximum la souffrance animale. En d'autres termes, il faut respecter... Dans l'enseignement, il faut promouvoir un enseignement ouvert du judaïsme, le respect de l'autre, mais dans le respect de l'autre, il y a également le respect de la planète, parce que c'est un monde qui a été créé par Dieu.
Alors, dernière citation de Jean Rostand, que je vais relire. « Je me sens très optimiste quant à l'avenir du pessimisme. »
C'est pour répondre à la question qui nous est souvent posée à nous dirigeants communautaires. Comment voyez-vous la situation des Juifs de France et l'avenir prochain ? Incontestablement, la situation est très difficile et nous avons un certain nombre de menaces. Nous devons prendre l'ampleur du problème, mais également, cela ne doit pas nous décourager, mais au contraire, nous encourager à avancer et à être 2 fois plus actifs et proactifs. Pourquoi on est inquiet ? Parce qu'il y a de nombreuses menaces. les menaces, on les connaît. L'antisionisme, qui malheureusement vient toujours à l'antisémitisme, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, on délégitime sans arrêt Israël, avec une ignorance totale de la réalité du Proche-Orient et une ignorance absolument scandaleuse.
Et là aussi, d'ailleurs, il faut former nos enfants à savoir, non pas dans la propagande, mais dans la connaissance de l'histoire et de l'histoire récente, pour pouvoir défendre Israël.
Absolument, il faut leur apprendre à répondre, parce que nous avons tous les arguments pour répondre contre cette mauvaise propagande, et notamment dans les universités, établir un dialogue et faire connaître la réalité d'Israël au plus grand nombre. Malheureusement, cet antisémitisme entraîne même des vraies folies. Les djihadistes, les fous comme Mera, Fofana ou Nemouch, qui viennent assassiner des juifs et des enfants juifs à Paris ou à Bruxelles. Il existe d'autres menaces, comme un courant qui, sous couvert de laïcité, devient très anti-religieux et remet en cause un jour la Brit Mila, l'autre jour, on en a parlé, l'abattage rituel et les règles de la cacheroute, alors même que la laïcité, à l'origine, devait protéger chacun pour qu'il puisse, dans son environnement privé, respecter sa religion. Et enfin, nous avons des menaces de fonctionnement de nos institutions pour des raisons démographiques et financières. Dans la situation très difficile qui est la nôtre, des Juifs de plus en plus nombreux ont fait le choix de l'Aliya, ce qui est un choix tout à fait respectable. Mais ce départ en Israël, de cadres très impliqués, de donateurs très impliqués, dépeuple un certain nombre de communautés, notamment en province, de soutiens précieux. Et nous n'attendons plus d'arrivée massive, démographique, de juifs en provenance d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est. Avec cette alia, avec l'assimilation, si nous ne faisons rien, le nombre de juifs en France va fortement baisser ces prochaines années et remettre en péril l'équilibre financier de nos institutions et de nos communautés. Alors que pouvons-nous faire ? Nous avons une réserve. Il faut ramener vers le judaïsme les familles qui s'en sont éloignées. Il faut récupérer ces enfants et, si possible, les ramener dans une école juive. Un certain nombre d'écoles refusent d'accueillir les enfants dont les parents n'ont pas la ketouba, l'acte de mariage religieux du consistoire. À mes yeux, c'est une absurdité et c'est dangereux. Au nom de quoi pouvons-nous refuser aujourd'hui des familles qui feraient le choix difficile d'assumer leur judaïté et qui veulent éduquer leurs enfants dans la connaissance de la Torah? On dit en yiddish « Shver zizin de yind ». C'est difficile d'être juif. Accueillons tout le monde. Alors, je sais que ce n'est pas très consensuel, mais je pensais à une phrase d'Oscar Wilde, puisqu'on fait des citations aujourd'hui, qui disait que quand les gens sont d'accord avec moi, j'ai toujours le sentiment que je dois me tromper. Donc, je répète, nous avons besoin d'accueillir tous les enfants. Et c'est une des originalités de l'École de l'Alliance. Je vous demande de soutenir ce courant de pensée.
Et en tout cas, on sent bien qu'il y a un très fort attrait de l'école juive, puisque les très importantes listes d'attente des écoles de l'Alliance vous ont conduit, en tant que président de l'Alliance Israël Universelle, à conduire deux chantiers très importants. L'extension du collège-lycée Georges Levenne dans le 12e, hein, qui va pouvoir accueillir 250 à 300 enfants de plus d'ici un an, et à ouvrir également un collège dans le 16e arrondissement, devant la très forte demande communautaire et des parents de l'école, puisqu'une sixième va ouvrir. C'est le début, évidemment, d'une grande aventure. Donc, on sent bien que cette attente, avec beaucoup de parents dont les enfants sont scolarisés en école publique ou en école privée non juive, qui viennent vers les écoles de l'Alliance, eh bien, est un vrai phénomène encore très puissant. Si nous n'y répondons pas, c'est ce que vous dites, Marc Eisenberg, eh bien, ça risque de s'éteindre. Et peut-être pour toujours.
Quelles que soient les difficultés et les menaces qui pèsent sur la communauté que je viens de citer, nous avons aujourd'hui des demandes, nous avons des enfants dont nous avons la charge, et effectivement, devant des listes d'attente, devant 200 enfants que nous n'avons pas pu recueillir cette année, par exemple dans notre lycée Leven du 12e arrondissement, nous avons décidé de faire cette extension ou de créer dans le 16e un collège, parce que c'est une demande des parents, et c'est effectivement notre responsabilité, que nous pensons que si nous éduquons les enfants dans une vraie connaissance du judaïsme et en tant que vrai bon citoyen comprendre l'alliance entre le judaïsme et les droits de l'homme, nous rendons service au peuple juif. Nous avons besoin de soutien financier. Je suis désolé de revenir, mais comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Je pensais à La Fontaine qui disait « Il est bon d'être charitable, mais envers qui ?» C'est ça le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qu'il ne meure enfin misérable. On est tous très sollicités. Et toutes les causes caritatives sont éminemment respectables. Mais il faut des priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, une des priorités, c'est l'éducation. Et une des priorités, c'est cette éducation dans l'esprit humaniste, ouvert, tolérant de l'Alliance, dans le respect des traditions.
Et dans le renforcement de l'identité.
Dans le renforcement de l'identité juive, dans le renforcement du lien avec Israël. Il faut soutenir cet effort de l'Alliance.
Et pour être tout à fait précis, donc, pour ce soutien, vous savez que vous pouvez le faire dans le cadre de l'ISF en libellant vos chèques à la Fondation Egno, en adressant vos chèques à l'AIU, Alliance Israélite Universelle, 45 rue La Bruyère, et que de toute façon, tout don, évidemment, bénéficie d'un CERFA.
Et l'Alliance n'a pas une pratique régulière de gala, mais cette année, en raison de nos besoins financiers très importants pour l'année 2014, nous avons décidé de faire un gala tout à fait exceptionnel. J'invite les auditeurs à le noter déjà sur leur agenda, le 4 novembre.
Marc Eisenberg, ça fait très longtemps que l'Alliance n'a pas fait de gala, donc j'imagine que vous nous préparez une surprise.
Absolument. À la hauteur des besoins de l'Alliance et du soutien que nous sollicitons, nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir Shimon Peres le 4 novembre prochain, qui va consacrer sa première visite après son mandat de président de l'État d'Israël à l'Alliance. C'est un ami fidèle de l'Alliance depuis des années. Il soutient l'action de l'Alliance en France et en Israël. Et donc, nous aurons le plaisir de l'accueillir. Et j'espère que vous serez très nombreux dans ce gala, à la fois pour rencontrer Shimon Peres et pour soutenir notre action. Merci beaucoup.
Je vous renvoie, en tout cas pour toutes ces informations et pour le soutien que vous voulez apporter à l'Alliance, à notre site aiu.org.
Je rappelle que si vous avez la chance d'être assujetti à l'ISF avant le 15 juin, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 75% en libellant vos chèques à la Fondation Egno 45 rue La Bruyère. Mais si vous avez la chance de ne pas être assujetti à l'ISF, vous pouvez également envoyer vos chèques à l'Egno. Vous bénéficierez des abattements fiscaux réservés à l'impôt sur le revenu. Alors merci de votre aide.
L'adresse, c'est 45 rue La Bruyère, donc Alliance Israélite Universelle, et tous les renseignements sur notre site aiu.org. Marc Eisenberg, ça a été un grand plaisir de passer ce moment avec vous. À très bientôt.
Merci.
C'était « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es », une émission de l'Alliance Israélite Universelle présentée par Ilana Sicurel.